Aujourd'hui, en ce 25 avril, à Rencontre spirituelle, il est question de Saint-Marc. Qui ne connaît pas au moins le nom de Saint-Marc? On aurait tous profit à relire ce beau petit évangile. Ça se lit en, vous savez, 2 heures, hein, puis on a lu l'évangile de Saint-Marc. D'ailleurs, il y a des enregistrements de l'évangile de Saint-Marc sur disque autrefois, ça existait. Assez bien lu d'ailleurs. Et c'est fascinant, car l'évangile de Saint-Marc est vraisemblablement le plus ancien. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. D'ailleurs, on peut lire dans la Bible en français courant, qui se vend pas cher, c'est magnifique papier Bible, c'est combien de pages? C'est énorme, hein? C'est considérable, et ça se vend très peu cher. Dans l'introduction, on dit que des 4 évangiles, celui de Marc est le plus court et très probablement le plus ancien. On discute souvent de la valeur de ces évangiles depuis peut-être une centaine d'années, mais surtout depuis une vingtaine d'années un peu partout. Et souvent, on prétend que les évangiles, ça date du 2e siècle, et on nous raconte toutes sortes de choses qui sont franchement contredites, particulièrement depuis à peine quelques années, de façon très catégorique, par des découvertes extrêmement intéressantes, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais on peut se demander qui est ce Saint-Marc, hein? Qui est-il au juste? Alors, c'est une question qui arrête n'importe quel biographe de Saint-Marc. Quand il s'agit de décrire la vie de ce saint, d'après le Nouveau Testament, on se demande si ce juif était un compagnon des apôtres, nommé Jean de son nom d'israélite, surnommé Marc d'un nom romain, si c'est le même personnage que Marc l'évangéliste. C'est assez complexe, si c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Que le nom comme israélite soit Jean et qu'il ait été baptisé Marc, c'est pas surprenant, on le trouve, comme je vous l'ai déjà dit. Dans la Bible, on voit que Abraham s'appelait au début Abram, et Dieu lui donne un nouveau nom, et c'est d'ailleurs la coutume. C'est pour ça qu'il y a des noms religieux souvent pour les gens qui entrent en religion, prennent un nouveau nom. Ou le pape lui-même prend un nouveau nom. Les exégètes modernes croient devoir distinguer 2 personnages. La plupart des auteurs, cependant, s'appuient sur l'Antiquité, sur Saint Jérôme, etc., et même d'autres, pour l'identification de Jean-Marc et de Marc l'évangéliste. Jean-Marc, il en est question dans les Actes des Apôtres. Et c'est assez complexe, mais ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un jeune juif. Un jeune juif qui a beaucoup de caractère et de qualité. Il est, s'il est bien le même que Jean-Marc, c'est quelqu'un de très intéressant pour ce qui est de sa biographie en tant que compagnon de Barnabé. Pour ce qui est de son évangile lui-même, c'est un évangile passionnant à lire. Moi, je l'aime beaucoup, l'évangile de Saint-Marc. C'est simple, c'est direct. Et ça se divise c'est assez bien construit. Il y a des auteurs qui prétendent qu'il n'est pas si bien construit. Je ne serais pas tellement d'accord, parce que dès les premières lignes, il présente Jésus comme le Fils de Dieu, dès le tout début. Si vous prenez, ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le premier verset. Et tout de suite, il se réfère à Isaïe. Il dit dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit, « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Ainsi, Jean parut dans le désert. Il parle donc de Jean-Baptiste. Ce titre, ou le début étonnant, là, qui confirmé à plusieurs reprises tout au long de l'Évangile, on le retrouve plusieurs fois, ça doit rester secret selon la volonté même de Jésus, parce que Jésus, qui affirmait être le Fils de Dieu, n'aimait pas qu'on le répète, évidemment, puisqu'il aurait été ou assassiné, ou exécuté, ou traduit en justice encore plus rapidement qu'il ne l'a été. Et puis, c'est un titre qui ne peut pas être facilement compris. Quand, contemplant, avec l'officier romain, quand il est Jésus sur la croix, celui qui est mort, hein, vous savez, l'officier romain qui dit vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il dit ça au pied de la croix. Et c'est dans l'évangile de Saint-Marc, tout ça. Et pourtant, lorsqu'un envoyé comme Jésus paraît, il faut bien que chacun l'accueille dignement. Il faut y préparer le peuple de Dieu. C'est la tâche de Jean-Baptiste, comme je viens de vous le signaler, de qui Jésus reçoit le baptême, comme il est narré dans l'évangile de Saint-Marc. Puis après une période d'épreuve, dans la solitude, mais commence la vie publique de Jésus. Et ainsi de suite, le drame est bien dressé, je trouve. C'est très bien fait. Et ça se termine avec une conviction que vraiment, Jésus est le Fils de Dieu. C'est un évangile pour affirmer la divinité de Jésus. Vous savez qu'il y a à peine un an, on a célébré à Venise une année de Saint-Marc. On peut se demander pourquoi. C'est que il y a 9 siècles, le 8 octobre 1094, en somme, 9 siècles et 1 an et demi, on aurait, en coïncidence avec la consécration de la nouvelle basilique de Saint-Marc, ou Saint-Marc, paraît-il qu'il faut prononcer Saint-Marc, Saint-Marc de Venise, quoi. L'actuelle basilique qu'on peut voir, c'est fantastique la basilique Saint-Marc sur la place Saint-Marc à Venise. Eh bien, on affirme avoir retrouvé le corps de Saint-Marc, et puis on l'avait placé à cette époque dans une urne de plomb, sous le maître-autel. Et c'est ainsi que Saint-Marc est devenu le patron religieux et politique de Venise, dans le nord de l'Italie, hein, sur la mer Adriatique. Que finalement, l'histoire de Saint-Marc, c'est qu'il est aussi ainsi devenu patron religieux et politique de Venise et de sa république, puis que son tombeau a été le but de pèlerinage de toute l'Europe. Hein. La basilique Saint-Marc, érigée en ce temps-là, au 11e siècle, en son honneur, c'est un chef-d'œuvre de l'architecte byzantin de cette époque, mais anonyme, qui l'a modelé sur celle des 12 apôtres de Constantinople. Il y a une basilique fantastique qu'il y avait à Constantinople, c'est aujourd'hui Istanbul en Turquie, et c'est devenu une ville presque entièrement musulmane aujourd'hui, puisque Constantinople est tombée aux mains des musulmans en 1453. Au cours des 12e et 13e siècles, cette basilique a été embellie à son intérieur par un revêtement de mosaïque. Il faut voir ça si on peut, au moins dans des livres. Ça a été restauré au 17e, 18e siècle, mais ça présente dans une belle synthèse toutes les scènes principales de la Bible et surtout des évangiles. Et l'ancienne tradition de Venise nous dit que Saint-Marc même serait venu à Venise et qu'au moins il y serait ensuite arrivé avec son corps. Alors, histoire ou légende, on ne sait pas trop. Alors, voici un petit résumé de ce qu'on peut dire de sa vie. Et ce n'est pas tellement sûr. Il est nommé, croit-on, dans les Actes des Apôtres, par le prénom hébraïque de Jean, comme je vous ai dit tout à l'heure, prénom israélite, et comme le fils d'une Marie, dans la maison de laquelle, à Jérusalem, se réunissait la communauté chrétienne. La communauté chrétienne qui était sous la juridiction de Pierre, parce que Pierre a été évêque au début à Jérusalem, ensuite à Antioche, puis ensuite à Rome, où il est enseveli, comme je vous ai déjà dit, sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, tel que ça a été découvert sous le règne de Pie XII, dans des recherches archéologiques extrêmement savantes et extrêmement importantes. Et ces réunions sous la juridiction du premier pape Saint-Pierre, à Jérusalem, se C'était vers l'an 43 après Jésus-Christ environ. Selon ce qu'on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la première histoire de l'Église, si on peut dire, et qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je vous le signale pour ceux qui l'ignoreraient, et qui se trouve juste à la suite des quatre évangiles. Hein. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais ouvert le Nouveau Testament, c'est assez curieux. On voit dans le livre des Actes des Apôtres qu'après être né comme ça à Jérusalem, il suit son cousin Barnabé jusqu'à Antioche, en Syrie. Et il s'unit avec lui à Paul, Saint Paul, le grand Saint Paul, dans le premier voyage de cet apôtre extraordinaire. Alors tous les trois sont ensemble. Et à mi-chemin, il semble bien que Saint Marc se soit détaché. Il est rentré à Jérusalem à cause de différences d'idées sur la façon d'admettre les païens dans l'Église. Est-ce qu'on devait les admettre après les avoir circoncis comme des juifs, ou bien si on devait les admettre tels quels par le baptême, simplement. Et alors, plus tard, il suit son cousin Barnabé à Antioche et à Chypre. On voit ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, chapitre 15. Quelques années plus tard, dans les épîtres de Saint Paul, les épîtres qu'on appelle de la captivité, il est à nouveau nommé comme collaborateur de Saint Paul. Vers l'an 60, il est à côté de Saint Pierre. Comme on dit dans la première épître de Saint Pierre, c'est Saint Pierre qui écrit ça, en Babylonie, c'est-à-dire à Rome. Rome qu'on considérait comme la Babylone. Saint Jérôme a recueilli vers l'an 400, on pourrait dire, des anecdotes au sujet des premiers siècles qui se transmettaient en grande partie de façon orale. Et il écrit ce qui s'y suit au sujet de Saint Marc. C'est très intéressant. Il dit « Marc, disciple et interprète de Pierre, d'après ce qu'il avait entendu rapporté par Pierre, prié à Rome par ses frères, a écrit un court évangile. Saint Pierre, l'ayant entendu, l'a approuvé et l'a publié de son autorité pour qu'il soit lu dans les églises. Et ayant donc pris avec lui l'évangile qu'il avait composé, il se rendit en Égypte, Saint Marc, et puis annonçant le premier, le Christ, à Alexandrie. Alors il serait donc, si on peut dire, le fondateur de la grande église copte d'Égypte. Vous savez qu'il y a environ entre 7 et 9 millions de chrétiens en Égypte. Ce sont des coptes. Quelques-uns d'entre eux sont des coptes catholiques. Et ils ont une grande importance dans l'administration souvent du gouvernement en Égypte. Ils l'ont eu assez souvent parce qu'ils ont reçu une formation qui était à la fois égyptienne et occidentale à cause des missionnaires venus de France et d'ailleurs. D'ailleurs, les écoles catholiques, à Alexandrie en particulier, au Caire ou ailleurs, sont grandement fréquentées par les musulmans qui aiment beaucoup la formation qu'on y donne. Et alors, Saint Marc a constitué Alexandrie de cette église, dit Saint Jérôme, par une doctrine et une conduite si exemplaires qu'il poussait tous les disciples du Christ à l'imiter. Alors cette tradition qui est citée par Saint Jérôme, que Marc a évangélisé Alexandrie d'Égypte après le martyre de Pierre à Rome, on ne la retrouve attestée qu'après l'an 200. Mais il semble bien qu'elle est digne de foi, car, vous savez, beaucoup d'écrits sont disparus, hein? Et la tradition orale semble vraiment valable. De toute façon, cette tradition a été reproduite par plusieurs sources ensuite et développée dans des écrits qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des textes qui ressemblent beaucoup aux évangiles ou aux actes des apôtres, mais qui sont dits apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été acceptés dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Alors, il y aurait vécu, Saint Marc, en Égypte, jusqu'à l'Empire de Trajan, puis il aurait été martyrisé le 25 avril dans un lieu rocheux, à Bucolie, ce qui veut dire abattoir, où il y a un petit mémorial. Et puis, au 5e siècle, on a transporté son corps dans une basilique plus grande, dans la zone de chambre à Alexandrie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait été ensuite transporté au 11e siècle à Venise. C'est un domaine très complexe et en partie assez obscur. C'est l'historien Tramontin qui a écrit en 91 « Patriarcat de Venise ». On peut essayer de comprendre ce que cet historien fameux nous rapporte. Il nous dit que Paul Diacre, un Lombard, c'est-à-dire en italien, quoi, aujourd'hui, on dirait. La Lombardie, c'est en Italie. Donc, Paul Diacre, dans son Histoire des évêques de Metz, de la fin du 9e siècle, nous parle le premier d'une prédication de Saint-Marc dans les régions de Venise, et précisément à Aquilée. Il est raconté que Pierre, arrivé à Rome, a envoyé, en les choisissant parmi ses collaborateurs, les meilleurs, les plus instruits, c'est-à-dire Apollinaire, qu'il envoie à Ravenne, c'est dans le nord de l'Italie aussi, Ravenne, c'est une autre ville où on a des basiliques magnifiques, remplies de mosaïques superbes, splendides, dans le style de l'Orient chrétien, dans le style, disons, des orthodoxes, de la grande église orthodoxe, et c'est magnifique à Ravenne. C'était une capitale pour l'Empire. Et on dit que Pierre a envoyé aussi Lucius à Brindisi. Il aurait envoyé Anatole à Milan. Et dans un vieux texte, on dit il destina Marc, qui était le principal parmi ses disciples, à Aquilée. Le principal parmi ses disciples. Donc, très près de Pierre, le cœur de Marc a battu au même rythme que celui de Pierre, qui lui a insufflé beaucoup de sa foi profonde que l'on retrouve dans les évangiles et dans les épîtres de Pierre. Quelle foi il a après avoir trahi Jésus au moment de l'arrestation de Jésus, quand il renie Jésus. Dans le texte, on dit... Après avoir préposé Hermagora, son accompagnateur, Marc est retourné auprès de Pierre, le bienheureux, qui cependant l'envoyait à Alexandrie. Alors il semble donc qu'à Aquilée, la légende soit née au VIe siècle pour affirmer l'autorité de cette église contre Rome, avec laquelle, avec Ravenne et Milan, elle était en désaccord pour n'avoir pas accepté les trois chapitres d'un concile, le concile de Constantinople, le deuxième. Et étant donné qu'Aquilée, cette ville, avait été défiée par le pape à prouver son origine apostolique, elle semble devoir inventer la légende, alors on n'est pas sûr. Je passe outre à toutes ces discussions pour arriver à des choses beaucoup plus importantes, c'est la qualité du texte de l'évangile de Saint-Marc. Vous savez qu'il y a à peine quelques années, on a... des papyrologues, c'est-à-dire des spécialistes, des vieux papyrus, les vieux textes qui sont très anciens. Un spécialiste du nom du Thiede, c'est T-H-I-E-D-E, un Allemand de 42 ans, a prétendu que les connaissances... comme spécialiste du Nouveau Testament, pourrait être révolutionné par les trois fragments qu'il a analysés. Ce sont des fragments d'un papyrus où on voit quelques lignes en grec. Et elles font partie, ces quelques lignes, de toute évidence, du chapitre 26 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et dans un autre papyrus... découvert dans la grotte numéro 7 de Qumran. Vous savez, c'est une des grottes qui sont sur la mer Morte. J'y suis allé déjà, c'est comme dans un désert, c'est quelque chose de terrible. Et là vivait une communauté juive très fervente et qui est disparue et qui avait caché des papyrus, des documents. et le professeur Thiédé, cet Allemand, et d'autres papyrologues, ont déchiffré deux versets de l'Évangile selon saint Marc. Pourquoi est-ce une trouvaille? Parce que la présence d'Évangile sur ce site de la communauté juive, on peut les dater de l'an 50 au plus tard, l'an 50 au plus tard. Rappelons que Jésus serait mort en l'an 30. Ça veut dire au maximum 20 ans après la mort de Jésus que ces versets de l'Évangile de saint Marc dateraient. Alors c'est une première pierre, dit-on, dans le jardin de quantité d'exégètes qui prétendent que ces évangiles seraient d'auteurs inconnus et qu'on les attribuerait à Marc, Matthieu, Luc et Jean et qu'ils seraient beaucoup plus récents. Les exégètes, justement, de cette pensée ont réagi en dédaignant ce chercheur allemand, grand spécialiste, mais sans succès, car une femme, oui, Orsolina Montevecchi de Milan, qui est une papyrologue, là, une spécialiste des papyrus, de ces vieux textes, éminente, considérée par tous les papyrologues du monde entier comme la plus grande oracle scientifique, dirait-on, elle a tranché en faveur du professeur Thiédé. Et elle a dit « L'identification me semble certaine ». Et on aurait donc la preuve que l'Évangile de saint Marc a été écrit au tout plus tard 20 ans après la mort du Christ. Et ça révolutionne tout ce que vous pouvez entendre souvent contre les Évangiles, contre l'authenticité des Évangiles. C'est terrible de penser que on peut attaquer ainsi des textes aussi importants que l'Esprit Saint a inspiré, Dieu lui-même a inspiré, qui les a fait confirmer par saint Pierre, et qu'ils ont été confirmés en tous les cas par l'Église, dès les débuts de l'Église, et qu'on puisse les mettre en doute, et finalement on en arrive dans certaines recherches, comme on en a publié récemment dans des grandes revues américaines, à nous dire que très peu de paroles sont authentiques dans les évangiles. Quand Marc se met à raconter et à proclamer l'histoire d'un certain Jésus, dit-il, venu de Nazareth en Galilée pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean, c'est le texte de saint Marc, mais saint Marc entame une œuvre. Il me semble que cette œuvre-là, c'est vraiment le début d'une histoire littéraire de 20 siècles. Et ça dure depuis 20 siècles. Reprenez la lecture de cet évangile et vous verrez comme c'est beau. Et le commencement, comme je vous ai dit tout à l'heure, est magnifique. C'est un point de départ. C'est un repère unique qui affirme la filiation divine de Jésus. C'est le premier de tout ce qui par la suite va recevoir le nom d'évangile, car de plus en plus, on est sûr que l'évangile de Marc est le plus ancien. Et c'est une espèce de vie de Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise que les évangiles sont comme une vie de Jésus, mais c'est une vie, à mon avis, de Jésus. Mais c'est surtout écrit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour proclamer la divinité du Christ. Faute de témoins plus anciens, d'ailleurs, nous sommes bien obligés de voir dans les 16 petits chapitres de cet évangile le modèle. On pourrait dire la matrice, si vous voulez. Vraiment le modèle de tous les autres récits évangéliques, qu'ils soient ceux qu'on retrouve dans la Bible, ou que ce soit ceux qui sont apocryphes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et même, c'est le modèle de toute histoire de Jésus. Que l'histoire de Jésus tienne du roman, ou bien d'une étude vraiment scientifique. J'ai dans ma bibliothèque au moins 60 vies de Jésus et d'études sur le Christ, sinon j'en peut-être même plus. Et je crois qu'elles sont modelées finalement, profondément, sur cet évangile de saint Marc. Reste que le point d'origine est assez accidentel. Ce que Marc met par écrit, en somme, n'est rien d'autre que ce qu'en milieu chrétien, on se transmet de bouche à oreille depuis quelques années. Marc raconte à son tour, puis il transmet, en filtrant à sa manière, un événement qui est perçu comme fondateur, le plus grand événement de l'histoire.
C'est aujourd'hui la fête de Saint-Marc. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je viens de vous dire, il y a quelques minutes, que l'évangile de Saint-Marc, c'est vraiment pour lui, comme pour d'ailleurs nous tous, un événement fondateur. Ce qu'il veut raconter, c'est un événement fondateur et son évangile l'est aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ça fonde, ça vient du mot les fondations d'un édifice, d'une maison. C'est au principe, c'est à l'origine, c'est le fondement, quoi. Ton écriture, d'ailleurs, on le voit bien, ça enregistre une expérience qui est reçue et vécue comme victorieuse. Son écriture à Saint-Marc nous montre bien qu'il y a un nom, Jésus, un sujet qui est reconnu comme celui qui est le médiateur d'une vie nouvelle, d'une plénitude qui est déclarée incomparable. Et c'est là tout le paradoxe de ce premier évangile. C'est le premier, vraiment, il n'est pas le premier dans le Nouveau Testament, il est le deuxième, mais il serait, on le dit de plus en plus, le plus ancien. Il est le premier, et c'est malgré lui. Car il n'a voulu noter que ce qu'il avait reçu. Il n'y a pas de prétention dans cet évangile. Mais ce qu'il a reçu, vraisemblablement en bonne partie de Saint-Pierre, se veut absolument nouveau. C'est une éruption. C'est une éruption verticale, dit un auteur, dans le cours du temps, d'une plénitude capable de s'affronter aux puissances du mal, à la réalité du péché et même à la mort. C'est un point d'aboutissement d'une tradition essentiellement orale. Marc devient, pour nous, le point de départ repérable de toute une tradition écrite. D'ailleurs, le mot évangélion, Evangelion, évangile, c'est à cheval entre les deux. Ça signifie d'abord proclamation, annonce d'une victoire, puis d'après les contextes, cette victoire même aussi. C'est pas rien, c'est plus simplement une annonce d'une victoire, c'est une victoire. D'ailleurs, c'est le mot évangile veut dire proclamation. Ça fait drôle quand on entend proclamation de l'évangile, ça fait un peu redondant au fond, mais on peut le dire. Je n'ai rien contre. Ce mot évangile va finir par signifier un siècle plus tard le récit qui raconte la bonne nouvelle victorieuse. Le fait que Saint Marc se serve de ce terme dans son ouverture, au début de son évangile, quoi, ça n'a pas pu contribuer évidemment à faire de ce mot le terme technique pour désigner ce type d'écrit. Ça vient de là, hein, quand on dit évangile. Et en soi, ce terme ne saurait désigner littérairement un genre ou une forme reconnue à l'époque de Marc, où Marc a écrit, c'est ce que dit un auteur. Saisir Marc dans son projet littéraire, c'est une gageure. Hein? Parce que en Matthieu et en Luc, on voit très bien ce qui est le motif. Mais pour Marc, on ne peut pas trouver de tradition antérieure. Il est vraiment le texte le plus ancien. Et c'est un récit continu. Il n'y a pas de rupture manifeste. Puis, c'est vraiment, ça s'adresse à des destinataires concrets. On voit qu'il écrit pour du monde. Et lire tout Marc à haute voix, je vous l'ai dit, ça prend pas plus de 2 heures. D'ailleurs, ça a déjà été donné ici à Montréal, si je me souviens bien, au Jésus par Gabriel Gascon, la lecture de Saint-Marc en une couple d'heures. Il y avait pas mal de monde qui allait entendre ça. Ça s'est donné aussi à Londres, à Bruxelles, à Paris, À Athènes aussi. Et un seul déclamateur peut lire ça. Ça pourrait être refait par quelqu'un de très compétent qui peut donner ce texte avec une conviction profonde et vraiment ébranler les gens, parce que souvent les gens ne le liront pas, le texte, à moins d'aller l'entendre. C'est curieux. On pourrait peut-être faire ça un jour à Radio Ville-Marie, le lire, comme ça, en une couple d'heures avec un peu de musique. Ça, disons, ça prendrait une belle émission de 3 heures. Il faudrait être vraiment à l'écoute et attentif. Ce serait peut-être pas si facile. De toute façon, en jouant ce texte, ça permet de retrouver la grande qualité de cet évangile magnifique. Très simple comparé à Saint Jean, ça n'a pas l'ampleur, la grandeur, la poésie de l'évangile de Saint Jean. Mais c'est autre chose. Souvent, c'est dans la simplicité qu'on trouve la grandeur. Parce qu'une étude attentive de la composition de l'évangile de Saint-Marc, ça révèle bien, comme je vous l'ai dit, une espèce d'unité, comme on dirait, organique. Il y a une grande unité, tant du point de vue dramatique que selon l'organisation traditionnelle de toutes les parties. C'est bien fait, c'est bien construit. Son ouverture à tous les aspects et les fonctions d'une espèce de prologue dramatique conventionnel. C'est Jean-Baptiste qui apparaît comme le présentateur, puis qui va disparaître aussitôt que l'action est engagée. Et puis il désigne Jésus. Il invite les destinataires à entrer dans les perspectives qui s'annoncent. Puis la voix du ciel, là, vous vous souvenez, au baptême, qualifie Jésus, puis il révèle toute sa destinée. C'est le Père, Dieu le Père, qui parle. Voici mon Fils bien-aimé. Puis il y a un combat au désert avec Satan. Alors on peut comparer ça avec le prologue du livre de Job dans l'Ancien Testament, où la voix du ciel puis le rôle de Satan éclaire l'action qui va suivre. Et ça, tout ça, ça achève l'avenger. Jésus va sortir du désert, représentant une nouvelle humanité. Alors là, les anges, à savoir tout le contexte suprahumain, sont au service, ils viennent servir Jésus. Le monde de l'invisible sert Jésus. Alors ça grandit Jésus encore, tandis que tout ce qui pourrait être bestial ou sous-humain ou infra-humain, ça ne constitue plus de menace. Ce qui est de Satan, c'est lui soumis. C'est comme un drame, c'est comme une pièce de théâtre. Et tout cela nous est raconté, appuyé, d'ailleurs, par des citations éloquentes, qui sont des souvenirs de l'Ancien Testament. Ils se réfèrent à des textes anciens. On peut retenir notre souffle comme lecteur ou comme auditeur de cet évangile en voyant, durant 8 chapitres, les foules, les scribes, les pharisiens, les disciples eux-mêmes qui se méprennent constamment dans leur effort pour saisir qui est ce Jésus. Et c'est toujours la question qu'on se pose, même en cette fin du XXe siècle. Qui est ce Jésus? Est-il vraiment le Fils éternel de Dieu? Foi difficile à avoir, qu'il est un don. Comment croire qu'un homme qui a vécu il y a 2000 ans soit vraiment Dieu qui surgit dans le temps et l'espace et se manifeste sous le couvert de l'humanité, puis d'une véritable humanité, tout petit sur une planète, dans cet univers immense qu'il a créé, et qu'il parle avec des gens, et qu'il accepte de les aimer jusqu'au point de mourir, et de ressusciter, ne l'oublions pas. Il y a toute une dynamique qui mène à une véritable reconnaissance de la divinité de Jésus dans la première moitié du texte de Saint-Marc. Et au beau milieu du récit, dans un moment qui est bien orchestré par Saint-Marc, Pierre, qui est le porte-parole du groupe des disciples, déclare « Tu es le Christ ». C'est au chapitre 8. Voyez-vous, il y a 16 chapitres, c'est au chapitre 8, verset 29. « Tu es le Christ ». C'est comme une grande détente pour le lecteur ou l'auditeur là, du texte, quand retentit enfin ce nom qui dit la reconnaissance de la plénitude de Jésus, la plénitude messianique de Jésus, la plénitude divine de Jésus. Et jusqu'ici, le nom de Jésus n'avait résonné que dans le prologue, au tout début. Plus exactement, dans son ouverture, quand je vous l'ai dit, commencement de la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. C'est le premier verset. Mais après ça, il fait toute la démarche jusqu'à ce chapitre 8, verset 29. C'est très bien construit. Il y a des nouvelles péripéties dans son évangile. Alors qu'on croit l'avoir enfin saisi, mais Jésus révèle sur le coup toute la destinée de souffrance, de rejet, de mort même qui l'attend. Alors, vous vous souvenez, Pierre se rebiffe devant ça. Il dit, il proteste, il réprimande même Jésus, dit le texte de saint Marc, il réprimande Jésus. Mais Jésus le remet à sa place, comme on dit, avec une insistance assez lancinante, qui va revenir sur la souffrance nécessaire pour accomplir sa destinée messianique. Pourquoi? Je compte vous expliquer ça très fortement au milieu du mois de mai. Pourquoi? Jésus souffre comme pour montrer que Dieu connaît ce que c'est que la souffrance. Dieu l'endosse et Dieu l'a partagé. Et on ne peut plus dire à Dieu, « Pourquoi me fais-tu tant souffrir ?» Ce n'est pas lui qui nous fait souffrir. Mais souvent, dans notre révolte, dans une grande souffrance, on peut crier comme ça, « Pourquoi moi ?»« Pourquoi moi, Seigneur ?» Et dans ce cri, on peut aussi se retourner vers Dieu lui-même, en Jésus crucifié, comme on fait des milliards de personnes depuis des siècles et des siècles, en contemplant Jésus en croix sur une image, un dessin, une fresque, où tout s'est crucifié, répandu par toute la terre. Saint Marc déclare même que quiconque voudra marcher à la suite de Jésus devra connaître exactement le même sort. Ce sont les paroles de Jésus que cite Marc. Il est rapporté que le disciple du Christ devra porter sa croix, c'est le texte de saint Marc, porter sa croix et être disposé à perdre sa vie s'il veut avoir accès à la gloire, celle du Père avec ses saints anges, dit le texte au chapitre 8. Alors nous sommes véritablement là au centre de la composition de l'évangile de saint Marc. Et c'est un drame parce que c'est très difficile à accepter. Et les 8 derniers chapitres ne sont plus que finalement l'explicitation de cette perspective-là qui est au cœur du christianisme. Cette perspective de la croix au niveau des disciples en vue d'une espèce d'intégration progressive. Les 8 chapitres progressent là-dedans. Et à mesure que le récit avance, il y a une précipitation toujours plus accablante qui entraîne le cours des événements vers la catastrophe inéluctable, final. Tout l'effort porte sur la capacité que nous pourrions avoir de concilier, de réunir dans notre foi ce qu'on appelle la messianité de Jésus avec sa destinée de souffrance et de mort sur une croix. Très difficile à accepter, très difficile à comprendre. Jésus, en tant que au cœur de cet événement, il annonce tragiquement ce qui l'attend. Il a l'air de se mouvoir dans tout ça, dans l'évangile de saint Marc, en toute liberté, au milieu de l'épreuve. Il est libre. Il entraîne disciples et destinataires du récit dans son abandon. Il ne cesse d'ailleurs de révéler coup sur coup le grand geste final de victoire que Dieu lui réservera par-delà la mort, la résurrection. Le dénouement final, d'ailleurs, de l'évangile, on peut dire que c'est le chapitre 16, versets 1 à 8. Si vous ouvrez votre Bible, d'ailleurs, vous remarquerez qu'à partir du verset 9 jusqu'à la fin de l'évangile, c'est entre deux crochets, comme si ça ne faisait pas partie de l'évangile. Et c'est assez exact, d'ailleurs. Cette finale, on peut dire qu'elle vient d'un auteur plus tardif qui l'a ajouté à l'évangile de Marc, probablement au début du deuxième siècle. C'est drôle, l'évangile de Marc est le premier, le plus ancien, qui date en dedans de 20 ans après la mort de Jésus, semble-t-il, d'après tout une grande partie des savants de nos jours. eh bien, à une finale qui date du début du deuxième siècle. Le travail de cet homme-là qui a fait ça, ça consistait à compiler de façon originale les traditions qui sont rapportées. Et puis, il termine ce texte en disant approximativement que voilà ces récits-là racontent brièvement des choses qui ont été faites à l'époque, et après cela, dit le texte, Jésus lui-même fit porter par eux, de l'Orient jusqu'au couchant, les disciples, la proclamation sacrée et incorruptible du salut éternel. On dit dans ces textes des choses assez surprenantes qui on voit que ça fait pas partie vraiment du texte. D'ailleurs, ça se termine ainsi, cet évangile. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et montrait que leur prédication était vraie par les miracles qui l'accompagnaient. Alors donc, si tout le reste du texte est bien authentique, celui-là l'est moins, mais on peut le recevoir comme racontant quelque chose de vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir sur cette question-là. Le dénouement final, donc, c'est celui-ci est vraiment fils de Dieu. C'est une ouverture sur la résurrection. C'est conforme à tout ce que veut raconter ce jeune homme dont il est question au chapitre 14 de l'évangile de Marc. Il y a l'arrestation de Jésus. Puis on dit, c'est saint Marc qui écrit, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. » Un jeune homme, ce serait Marc d'après la tradition, un jeune homme suivait Jésus, vêtu seulement d'un drap. On essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Un jeune homme. Il aurait donc été près de Jésus, selon une certaine tradition. D'autres disent qu'il ne l'aurait pas connu, il n'aurait connu que Saint-Pierre. Qui a raison? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. De toute façon, la force dramatique de ce récit de Marc, qui a été remarquée par beaucoup, beaucoup d'exégètes, c'est vraiment une espèce de catéchèse magnifique. Les 8 premiers chapitres décrivent, je vous l'ai dit, une démarche qui mène à une connaissance, on peut dire, où l'on découvre, à travers des faits et des gestes, qui est Jésus. Puis les 8 derniers indiquent la voie pratique à suivre, comment se conduire pour être un disciple de Jésus, comment faire pour être avec lui, servir et donner sa vie, dit-il, en rançon pour les multitudes. Texte extrêmement difficile à comprendre. Je n'arrive même pas moi-même à le comprendre après tant d'années, je ne suis plus jeune. Beaucoup de difficultés à comprendre ce que ça veut dire que en rançon. Comme s'il avait payé à son père une dette. Très difficile à accepter, à comprendre. Je préférerais dire qu'il a servi, il a donné sa vie par amour pour les multitudes. Dieu nous montre dans sa souffrance en Jésus sur la croix l'amour immense, infini qu'il nous porte. De toute façon, la dramatisation de tout ce récit met en œuvre tout un processus d'initiation. Il veut, saint Marc, nous initier non seulement à la vie de Jésus, mais à la pensée de Jésus, pour nous transformer. Il est exclu d'imaginer dans son milieu d'origine un texte lu par bribes et morceaux. Ça devait se lire au complet. J'imagine que dans les réunions, on lisait tout ce texte d'un seul coup. L'assemblée devait se réunir pour une veillée de prière, probablement au temps de Pâques, et on devait lire tout l'évangile de Jésus. On y écoutait donc des récits qui rappelaient l'origine fondatrice du christianisme, de la foi chrétienne. Ça devait stimuler la persévérance dans le vécu actuel, très difficile, des premiers chrétiens. Ça devait ouvrir une grande espérance aussi sur toute la fin, le but de tout ça. Et c'est ainsi que jusqu'à ce jour, dans le milieu juif, on continue de faire aujourd'hui. On y lit, on y commente la Haggadah pascale. C'est un récit là, qui évoque, qui récapitule tous les récits. Les Juifs font ça encore aujourd'hui. On pourrait recommencer ça peut-être dans certains milieux, dans certains groupes, qui seraient prêts à entendre d'un seul coup cet évangile. Parce que Marc offre à la communauté finalement des Juifs de son temps, qui étaient chrétiens, une sorte d'Haggadah, comme disent les Juifs, un récit fondateur, branché dès l'ouverture sur l'oracle de l'Isaïe, que je vous ai lu tout à l'heure, puis aussi des oracles de Moïse, puis de Malachie, les textes de l'Ancien Testament. C'est ouvert sur un futur absolu, qui est la grande attente de la veillée pascale. On peut dire que Marc serait un texte agadique, disons, mais chrétien, proclamé dans la première partie de l'année pascale. Toute la communauté s'y trouve comme interpellée, convoquée dans l'attente de l'avenue du Christ en gloire. Alors, au nouveau venu, on enseigne du même coup qui est Jésus, puisque ça implique la condition de disciple. Il s'agira de marcher à sa suite, de boire à la coupe à laquelle il a bu, être baptisé du baptême qu'il a reçu, mourir avec lui pour être part à la gloire promise. Mais mourir avec lui, ça veut dire mourir à soi-même, mourir à ses niaiseries, à tout ce qui nous fait perdre notre temps, à tout ce qui nous distrait de l'amour profond. Amour pour Dieu, amour pour le prochain, et un amour pour soi-même. Accepter les dons qu'on a reçus, en rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Non pas en disant merci que je ne sois pas comme les autres, c'est pas ça, mais merci pour ce que tu m'as donné. D'abord la vie. Ce mystère extraordinaire qu'est la vie. Comment se fait-il que nous soyons là? C'est un don que d'exister, d'être. Et c'est un don de pouvoir penser, réfléchir, d'avoir un cerveau qui fonctionne, même s'il fonctionne pas très bien, comme celui de mon pauvre fils adoptif. Mais je lui enseignais à remercier Dieu pour ce qu'il avait. Et il le comprenait. Et c'est ainsi qu'il a écrit avant de mourir à son fils, il y a 2 ans, « Le plus grand cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu. » Avec joie. Il avait écrit ça à Pascal, mon petit-fils. Mourir avec Jésus, c'est ça, mourir à soi-même dans l'amour. Et après la lecture qu'on faisait de ce texte de l'Évangile de Saint-Marc, on peut dire que l'action se poursuivait. Alors, ils se réunissaient et ils célébraient ensemble le repas eucharistique. Et voilà donc le texte de Marc qui est resitué, à mon sens, selon toute vraisemblance, dans la vie des premières communautés chrétiennes. Tout donne à penser. De fait, que la démarche esquissée par Saint Marc, ça correspond en grande ligne à l'itinéraire personnel de Saint Pierre, celui qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans les termes modernes son gourou, son maître à penser, son maître spirituel. Et si Saint Pierre a reconnu en premier dans l'histoire la messianité de Jésus, le fait qu'il était envoyé en disant « tu es le Christ », il fut aussi profondément choqué par la difficulté d'admettre la croix, ce qui trahit son triple reniement dans le récit de la Passion. Et c'est d'intégrer la souffrance, l'ignominie de la croix dans cette image glorieuse de Jésus, Messie, qui constitue le cœur de cet évangile qu'on pourrait dire qu'il est de Pierre, parce que ce serait Pierre qui l'aurait enseigné à Marc. Ça intègre difficilement tout ce problème. Et que Marc écrit son évangile à Rome après la mort de Pierre, et même après la destruction du temple de Jérusalem en 70, c'est l'avis de certains commentateurs aujourd'hui. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, comme je vous ai prouvé tout à l'heure. C'est vraiment prouvé par des savants, par des spécialistes, et on peut se réjouir de ce que cet évangile de Saint-Marc ait été écrit dans les 20 années qui ont suivi la mort de Jésus. dans l'évangile de saint Marc, on peut lire des textes absolument superbes, superbes, comme quand Jésus est devant Pilate et qu'il est dit que Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient de nombreuses accusations contre Jésus, alors Pilate interrogea à nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Tu entends combien d'accusations ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était très étonné. Que c'est simple, c'est raconté comme si c'était presque un film. C'est magnifique. On peut aujourd'hui invoquer saint Marc et le remercier du fond du cœur d'avoir écrit ce bel évangile.